Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je suis aujourd'hui avec une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai, même si une longue carrière, je l'ai découverte très récemment. Et comme on se disait avant de commencer l'émission, c'est un dessin qui rend heureux. Elle traite de sujets souvent graves, souvent importants, des sujets de société, des sujets qui nous interrogent, mais c'est quand même un dessin merveilleusement joyeux et très, très envoûtant. Je suis donc avec Zelba, une autrice de bande dessinée. Mon grand regret, je n'invite pas assez souvent d'autrices, mais là c'est l'occasion de parler de son album qui est paru il y a quelques mois aux éditions Futuropolis. Ça s'appelle Le Grand Incident. Mais avant de parler de cet album très, très réjouissant et très questionnant, Zelba, bonjour. Est-ce que vous pourriez me dire qui vous êtes ?
Bonjour Stéphane. Eh bien, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité dans cette émission. Oui, je m'appelle Zelba, c'est mon pseudonyme. Mon vrai nom, c'est Wiebke Petersen. Je suis allemande, mais je vis en France depuis un peu plus de 25 ans maintenant. Donc, comme j'ai un nom pas très facile à prononcer, j'ai préféré prendre un pseudonyme. Et Le Grand Incident, c'est mon 12e livre, je crois. Non, c'est ma 12e BD, c'est mon 13e livre, parce que j'ai fait un livre, un album jeunesse aussi, jadis, quand j'étais jeune. J'ai découvert la bande dessinée sur le tard. J'ai lu ma première BD à 30 ans passés. C'était Persepolis et c'est ce livre de Marjane Satrapi qui m'a vraiment donné envie de faire de la bande dessinée. C'était bref, hein ?
Non, c'était bref, mais après, chaque personne raconte ce qu'il veut, en fait. Même, on peut inventer, on peut s'inventer des vies. C'est ça aussi l'intérêt de cette question, mais enfin vous, c'est la vérité. Voilà, et Marjane Satrapi, j'avais déjà entendu dans d'autres interviews qu'elle avait été très très importante pour votre carrière et votre entrée dans la bande dessinée. Le Grand Incident, c'est une bande dessinée qui s'inscrit dans une collection publiée donc par Futuropolis. Ils ont une collection sur le musée d'Orsay où il y avait eu un album absolument sublime de Catherine Meurice sur Olympia. Là, vous êtes vous dans un autre musée, c'est le musée du Louvre. Comment vous êtes arrivé dans cette collection ?
C'est toujours une invitation, en fait. C'était à la toute fin de mon travail sur Mes mauvaises filles, le livre que j'ai publié chez Futuropolis avant Le Grand Incident, un livre qui parle d'un sujet assez grave, parce que j'évoque donc la fin de vie de ma maman, je parle de mort assistée. Donc c'était un livre pas forcément très facile à faire pour moi, et je suis sortie de ce travail un petit peu sur les genoux et je me suis dit, est-ce que je vais peut-être plus jamais réussir à faire un livre, parce que je me sens vide et essorée. Et là, Sébastien Gnedic, mon éditeur chez Futuropolis, et Fabrice Douard, l'éditeur du Louvre, m'ont fait cette belle invitation, qui ne se refuse pas, bien sûr, parce que c'est vraiment une belle collection. Et quand je me suis penchée sur la liste des auteurs qui sont passés avant moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes. C'est une collection avec beaucoup de testostérone, n'est-ce pas ? Et à ce moment-là, il y avait aucune femme, aucune autrice seule aux commandes dans cette collection Louvre. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant. Aussi, quand j'ai mis en face l'histoire du Louvre même, j'avais vu qu'en 230 ans d'histoire du Louvre, jamais aucune femme n'a été à la tête de ce grand musée. Donc je me suis dit, tiens, ça fait écho un petit peu, où sont les femmes ? Et quand on va au Louvre et on cherche les artistes femmes, eh bien, on cherche longtemps. Donc voilà, ça faisait tout un tas de petites choses comme ça. Je me suis dit, ah ben, je vais forcément y aller avec mon female gaze et essayer de d'apporter un regard un peu féminin et féministe sur sur les collections du Louvre et voilà.
Alors je sais pas si c'est le female gaze, mais par rapport aux autres albums de la collection, vous êtes un des... Enfin, il y a l'album de Christian Lax sur cette sculpture africaine qui voyage d'Afrique en France, où il y a une réflexion sur la société, une réflexion sur les migrants. Mais vous êtes que deux à avoir pris le Louvre sans vous sentir, j'ai l'impression, écrasé par le Louvre, mais en tout cas pour en tirer quelque chose qui parle de ce qu'il y a en dehors du Louvre.
Alors ça, c'était pour moi une des conditions. C'est la carte blanche, en fait. C'est vraiment une carte blanche. Chaque auteur, chaque autrice vient avec ce qu'il ou ce qu'elle a dans le ventre. Et pour moi, c'était primordial de ne pas juste faire un livre hommage quelque part où je me balade dans le Louvre et montre le plus possible de belles œuvres. Enfin, il faut en montrer aussi. Et j'espère que mon livre fait quand même hommage aussi au Louvre. Mais pour moi, c'était un prétexte pour parler de quelque chose qui me travaille de toute façon. Je ne peux pas passer 2 ans de ma vie à faire un livre uniquement distrayant ou uniquement amusant. Voilà, il y a toujours forcément quelque chose qui me travaille et qui me fait réfléchir, et j'espère qu'il fera aussi réfléchir à celles et ceux qui lisent le livre après.
On a aussi l'impression que vous n'avez pas été impressionné par le Louvre.
ça fait plaisir parce que c'est trompeur. Si, j'ai été très, très impressionnée même parce que je me traîne un vieux complexe de l'imposteur quand même. Parce que comme j'ai débarqué dans la BD très tard et quand j'ai eu cette invitation dans la collection Louvre, j'ai dû avouer à mes deux éditeurs que je n'y avais jamais mis les pieds avant. donc c'était, voilà, j'y suis allée toute petite en rampant quelque part. Et si, c'est très impressionnant. Mais j'ai essayé d'utiliser la BD pour apprivoiser en fait ce lieu. Et même par le format, commencer par le format du livre que j'ai vraiment créé pour ce livre-là. Donc j'ai pris le plus haut format possible chez Futuropolis. Mais je l'ai aminci un petit peu pour pouvoir jouer vraiment la hauteur des plafonds, la grandeur du lieu. Donc si, ça m'a bien impressionné.
On va quand même rentrer dans cette histoire. Le tout début de l'album nous met directement dans l'ambiance et pose des questions qui vont se poser tout au long du livre. Mais comment commence véritablement cette histoire? Quel est l'élément déclencheur que vous avez raconté?
Alors, le livre commence sur une scène qui se passe après le grand incident. Ce qu'on appelle le grand incident dans l'histoire, c'est en fait la disparition des femmes nues dans les œuvres. Donc, les femmes nues dans les sculptures et dans les toiles deviennent transparentes et se dérobent au regard des visiteurs qui, en partie, les traitent un petit peu... ou leur manque de respect parce qu'elles se font toucher, elles se prennent des réflexions irrespectueuses, etc. Comme un petit peu comme les femmes dans la rue. Donc j'ai fait ce parallèle entre la nudité féminine dans l'art ancien et la sexualisation du corps féminin dans notre société d'aujourd'hui encore. Donc voilà. Et cette première scène montre un petit peu le pied de nez. qu'ont trouvé les sculptures et les femmes nues dans les œuvres pour revenir aux yeux des visiteurs, c'est-à-dire que les visiteurs mâles, majeurs du Louvre, doivent se déshabiller pour visiter le musée, pour se mettre un petit peu à pied d'égalité de toutes ces femmes nues et d'avoir la même place vulnérable qu'elles occupent.
Et c'est intéressant parce que quand on rentre dans l'histoire, quand on est un homme, donc un homme qui lit votre bande dessinée avant évidemment de rentrer et puis de prendre plaisir à lire, on ressent un vrai malaise au début de l'histoire. Ça, c'est une chose qui m'a comment dire, ça m'a pas étonné parce que j'aime les histoires et j'aime qu'on me surprenne. Mais le fait de demander aux hommes de se déshabiller, on se dit tiens, vous voyez, on devient très bancal. Ça, j'ai trouvé ça très intéressant en fait du point de vue masculin de réfléchir.
Ah, ça c'est marrant que vous dites ça parce que moi j'ai pas voulu créer un malaise. J'ai plutôt voulu interpeller et faire rire parce que c'est loufoque un petit peu aussi comme situation que les hommes. C'est des habits.
Après, c'est un malaise qui passe vite, hein, parce que je vous dis, plus qu'un malaise, on se sent bancal. Après, quand on rentre dans l'histoire, on retombe sur ses pattes et on avance. Hein. Mais c'est intéressant que pendant quelques pages, vous voyez, on se sente très déstabilisé.
Mais ça, c'est. Oui, c'est vrai qu'il faut, parce que ça. C'est le début de toute réflexion, je pense, c'est d'être bousculé un petit peu dans ce qu'on pensait être une norme, en fait. Et j'aime bien utiliser un peu des bousculades graphiques et en histoire pour commencer une histoire.
Oui, bon, on est très bousculé. Parce que ce que j'ai trouvé vraiment passionnant dans ce que vous racontez, mais aussi dans votre dessin, c'est qu'en permanence, il y a une sorte de renversement des regards. Les personnes qui avancent dans l'histoire sont souvent à une place qu'on ne leur imagine pas ou à une place qu'on ne leur assigne pas. Par exemple, c'est une femme de ménage qui parle au statut, ce n'est pas une conservatrice. Les directeurs, en fait, sont deux directeurs. Il y a un directeur-directrice, parce que c'est un personnage à deux faces, un grand, un petit, un homme, une femme. On est sans arrêt, je reviens le mot bancal, on est sans arrêt surpris parce qu'on n'est jamais à la place à laquelle on s'attend dans votre livre.
Ah, mais ça me fait très plaisir, ça fonctionne donc.
Oui.
En fait, j'ai voulu raconter. Donc, tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, ce sont des sujets pas forcément très drôles. L'invisibilisation des femmes dans le milieu culturel, le plafond de verre qu'on rencontre beaucoup de femmes encore dans plein de milieux professionnels qui leur refusent d'atteindre le plus haut niveau, les plus hauts postes. Aussi, dans cette histoire, c'est le cas parce qu'on a un président directeur. Et sa sœur jumelle, c'est sa secrétaire, c'est la secrétaire de direction, mais en réalité, elle prend très souvent sa place parce qu'il a un handicap, il n'arrive pas à prendre la parole en public. Donc, quand le directeur doit prendre la parole en public, et ben, il envoie sa sœur déguisée en lui et ça passe crème. Elle fait deux têtes de plus, mais personne n'y voit que du feu. Et j'ai vraiment voulu me servir d'un. Donc, j'ai écrit une fable burlesque un petit peu. J'ai pris ce côté burlesque pour aussi créer un vrai décalage. Et un décalage avec le vrai Louvre, bien sûr, pour montrer que c'est une histoire. Et aussi pour déconstruire les stéréotypes. Donc, je me sers de stéréotypes. Et je l'ai déconstruit au fil de l'histoire. Donc, on a, comme vous avez dit, une femme de ménage qui parle au statut, mais qui, c'est la femme de ménage portugaise, un peu le stéréotype que beaucoup de personnes ont encore en tête. Mais en fait, après, elle occupe d'ailleurs un autre poste. Hein. Elle va beaucoup évoluer aussi. Oui. Je pense que tous les personnages essayent de faire évoluer au fil de l'histoire tous les personnages et de les sortir de leur rôle qui correspond un peu plus aux stéréotypes au départ.
Oui, absolument. Et surtout, comme vous disiez, c'est burlesque. Là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est dans un truc très, très sérieux, très plombé. Mais à chaque fois, c'est toujours drôle. On s'ennuie jamais. Et même les sujets les plus compliqués deviennent toujours rigolos. Et ça aussi, ça déstabilise parce qu'on n'a plus l'habitude d'entendre un discours féministe qui soit sur le mode de l'humour. C'est souvent très sérieux, très dramatique, et évidemment les situations sont souvent très dramatiques, mais vous arrivez sans arrêt à jouer avec ça et à nous dire vous êtes devant quelque chose de très important, et si on le fait en riant et si on le fait avec légèreté, on y réfléchit presque mieux.
Alors, je ne sais pas si on y réfléchit mieux, mais on y réfléchit autrement. C'est-à-dire que ce que vous dites avec des combattantes peut-être féministes plus virulentes que ce que j'ai fait dans cette histoire-là, c'est aussi important, mais elle s'adresse à un autre public. Là, j'avais envie d'ouvrir le débat à un large public. Si je raconte une histoire qui est agressive, en fait, je vais me couper de tout un public masculin, notamment, qui ne voudrait pas ouvrir le livre parce que, enfin, qui a envie de prendre des coups quand il ne les mérite pas. Donc ça, c'est, voilà, j'ai essayé vraiment de montrer aussi que je ne mets pas tous les hommes dans le même sac, hein. Je ne tape que sur ceux qui le méritent.
Oui, parce que ça aussi, c'est important, c'est qu'il n'y a pas de, j'allais dire, il n'y a pas de jugement. Vous présentez les situations, des gens qui évoluent et qui sont confrontés à un problème qu'ils vont devoir résoudre le mieux possible.
Mais parce que je pense que, enfin, c'est un livre antipatriarcal. Moi, je suis contre le système patriarcal. Et je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui sont contre ce système aussi. Et c'est un combat qu'on devrait de toute façon mener toutes et tous ensemble. Et le système patriarcal fait du mal aux hommes aussi. Enfin, c'est pas quelque chose qu'on devrait perpétuer, qui a duré bien assez longtemps. Et donc, c'est un peu une invitation aussi à réfléchir à ça et déjà à se rendre compte, parce que je pense que beaucoup d'hommes ne se rendent pas compte de ce que les femmes vivent dans la rue, par exemple. La peur qu'on ressent quand on se déplace seul la nuit, ou on doit effectivement tout le temps se poser la question, est-ce que je peux... sortir en short ou en jupe et je trouve que ça n'évolue pas beaucoup, parce que je vois que mes enfants aujourd'hui et leurs copines subissent exactement la même chose que moi quand j'étais plus jeune et que nos mamans avant nous. Donc c'est pas, voilà, c'est quelque chose qui doit évoluer encore beaucoup.
Oui, je vous confirme, moi j'ai trois filles et c'est des questions dont on parle, pas tous les jours, mais régulièrement, quoi.
Bah oui, ça c'est vrai que c'est quelque chose où l'égalité n'est pas faite.
Alors, il y a le côté sur la place des femmes et sur l'image des femmes et sur l'image que les hommes ont des femmes dans votre album, mais il y a aussi une vraie réflexion sur l'art et sur l'histoire de l'art, parce qu'on est quand même, au Louvre. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans votre album, c'est que vous parlez donc d'œuvres du passé, des sculptures sublimes, notamment de la partie du Louvre qui est consacrée à la sculpture française, où on a des œuvres assez envoûtantes. Mmh. Beaucoup de femmes nues, mais il n'y a pas de jugement sur les personnes qui ont créé ces œuvres, à part une analyse d'une historienne de l'art qui est très intéressante. Mais vous prenez les œuvres telles qu'elles sont, et c'est le regard contemporain, notre regard sur ces œuvres qui vous intéresse.
Oui, parce que je pense que de toute façon, on ne peut pas juger ou jeter la pierre à quelque chose qui s'est passé il y a 200 ans ou plus difficilement, parce que c'était de toute façon, au Louvre, il y a beaucoup d'art exposé, fait par des hommes pour les hommes. Donc, il y a beaucoup d'hommes commanditaires et d'hommes artistes qui ont répondu à ces demandes. Et forcément, l'image de la femme qu'ils véhiculent est un miroir de la société de la création des œuvres. Donc, c'est de toute façon la place de la femme. On ne va pas se mentir. Quand on retourne 200 ans en arrière, c'était bien, bien pire qu'aujourd'hui. Et c'est moi ce qui m'intéresse, oui, c'est forcément, moi j'y vais avec mon regard, avec le recul qu'on a aujourd'hui sur les choses, et ça c'est très important, je le dis haut et fort, je ne suis pas du tout pour censurer des œuvres anciennes ou de les cacher, voilà, c'est pas du tout ça le message du livre, c'est plutôt de les recontextualiser, d'expliquer dans quel contexte elles ont été créées, et comme ça, on peut mieux comprendre Pourquoi il y a beaucoup de femmes qui sont dans des positions de soumission, il y a beaucoup d'attouchements non consentis aussi qui sont montrés, voire des viols, toujours sous couvert de scènes bibliques ou de scènes de la mythologie gréco-romaine. Mais ça s'explique parce que c'est beaucoup vraiment le regard de l'homme commandité par des hommes, et ces œuvres étaient quand même souvent aussi là pour que les commanditaires puissent se rincer l'œil, on ne va pas se mentir.
Oui, parce que j'ai eu une révélation en lisant votre album. Donc, je suis allé souvent au Louvre, j'ai vu beaucoup d'œuvres. Voilà. Une réflexion que je ne m'étais jamais faite, c'est que ces sculptures, ces tableaux, ces portraits de femmes nues, c'est qu'à l'origine, c'était quand même de vraies femmes. Vous voyez, il y a une sorte de vertige. Je me suis dit, mais il y a 200, 300 ans, il y a des femmes qui ont posé pour ces hommes. Et à l'intérieur de ces sculptures de marbre ou de bronze ou de ces sublimes peintures qu'on peut voir, il y a aussi un quelque chose d'une vraie personne qui a existé.
Oui, alors ça, c'est vrai que ces sculptures sont plutôt rares, les sculptures où on flaire encore la vraie personne derrière l'œuvre. Parce que quand on regarde, par exemple, les Trois Grâces de Pradier, on dirait presque pas des vraies femmes parce qu'elles sont tellement idéalisées, elles ont un corps tellement stéréotypé, lisse, on dirait vraiment trois clones, trois fois la même femme. Mais il y a des sculptures comme La Psyché abandonnée, par exemple, d'Augustin Pajoux, qui est une de mes préférées dans ces salles, où c'est une vraie femme en chair. On a l'impression qu'elle peut descendre de son socle et nous parler. Et elle a aussi une vraie expression du visage. Elle a un regard très souffrant qui a d'ailleurs beaucoup dérangé à l'époque, parce que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait faire. Il fallait que la femme soit plutôt douce et avec un petit sourire. Et là, cette psyché, elle est vraiment humaine. Enfin, une vraie femme avec un bassin large et un vrai corps. Donc, je la trouve sublime, cette sculpture.
Et c'est une réflexion aussi qui a été continuée pour moi avec les quelques pages où une historienne d'art parle de l'histoire du portrait, donc de l'histoire du portrait de David, d'une femme qui finalement porte le nom de son mari, mais aussi d'une femme noire qu'on a appelée au début portrait de négresse, ensuite portrait d'esclave. Là aussi, c'est très troublant, mais ça fait partie aussi d'une réflexion plus large. Il y a une exposition à Orsay sur le modèle noir, voilà, où on redonne à tous ces personnages qui n'ont pas eu de nom à l'époque et qui n'en ont pas eu jusqu'à nous, une place d'être humain, et là, une place de femme, en tout cas.
Alors oui, le portrait d'une femme noire, qui est aussi appelé parfois portrait de Madeleine, alors qu'elle ne s'appelait certainement pas Madeleine, mais il y a une vraie controverse autour de ce tableau, parce que nous, aujourd'hui, on lui prête des intentions que peut-être à l'époque, Marie Guimine Benoît, qui a peint cette toile, c'est d'ailleurs une des 29 femmes peintres exposées au Louvre. Il y a aussi un nombre, elles sont quasiment invisibles, hein, les femmes peintres. On réfléchit, est-ce que c'est pas remettre Madeleine à sa condition d'esclave en la montrant dénudée dans une position de portrait bourgeois classique, entourée d'ailleurs de portraits bourgeois, de femmes bourgeoises habillées dans de belles robes, etc. Et cette Madeleine, elle est là, un saint à l'air. La toile, la peinture, elle est sublime, sublime. C'est vraiment une très, très belle peinture, mais qui pose problème aujourd'hui. Mais voilà, je trouve qu'on a le droit aujourd'hui d'apporter un regard critique si on continue à montrer les œuvres.
Oui, tout à fait. Ça aussi, c'est une chose. Dans les musées, on y pense beaucoup. C'est comment parler d'œuvres anciennes en les laissant à leur place de chefs-d'œuvre. Parce qu'effectivement, ce portrait est une peinture extraordinaire.
Oui.
continuer à la montrer, parce qu'il faut quand même que les gens la voient, hein. C'est une véritable œuvre d'art, mais il faut aussi expliquer, parce que là, il y a une double, j'allais dire, il y a une double peine, c'est que c'est à la fois une femme et c'est aussi une femme noire, et là, on se permettait presque tout et n'importe quoi. Il y a tellement d'images d'hypersexualisées de toutes les femmes dans les colonies, et ça en fait partie. J'ai trouvé ça intéressant que vous glissiez cette problématique dans votre album.
Mais c'est parce que j'ai cherché un petit peu des femmes artistes. Je voulais absolument montrer aussi une œuvre d'une femme au Louvre. Et comme je le disais déjà, il n'y en a pas beaucoup. Cette œuvre-là, elle est vraiment très intéressante parce que elle est peinte par une femme, et parce que la femme peintre à l'époque, ça a dû être vraiment très très difficile pour elle de se faire sa place dans ce milieu très majoritairement masculin, et pour être exposée aussi, on ne peut pas lui en vouloir d'avoir un petit peu utilisé les mêmes ou joué sur les mêmes cordes que ses collègues masculins. Donc oui, les femmes étaient dénudées, c'était quelque chose qui était souvent pratiqué. Donc elle a marché un petit peu dans les traces de ses collègues masculins.
Oui, et puis aussi la culture des hommes et des femmes était aussi partagée. Voilà, il y a aussi tous ces problèmes là qui sont des problèmes vraiment vraiment passionnants. L'autre chose qui m'a beaucoup séduit dans votre album, c'est le découpage et le jeu permanent d'échelle entre le gigantisme du Louvre et la taille des statues, qui varie beaucoup en fonction des espaces, en fonction du découpage, des pages. Là aussi, c'est très déstabilisant, parce qu'on connaît les salles, et là, on est transporté dans un autre univers en permanence.
Alors, avant de commencer un album, j'essaye toujours de me donner un cadre. Parce que comme on est très libre et on peut partir dans tous les sens, j'aime bien me donner mes propres contraintes. Et pour cet album-là, je me suis dit, OK, je ne vais pas mettre de cases. Pour, comme vous l'avez dit, pour jouer aussi la hauteur des salles et la grandeur des salles. Et ça aurait été difficile d'enfermer ça dans des cadres ou dans des cases. Et ça me permettait aussi de montrer des toiles. En fait, les seuls éléments encadrés dans une planche sont les toiles, les peintures qu'on voit. Et comme c'est un livre qui déconstruit des choses, j'avais aussi envie de bousculer le lecteur et la lectrice en changeant parfois même le sens de lecture, ouais. De créer un sens de lecture avec les bulles et ou avec le mouvement d'un personnage, par exemple, qui déambule dans une planche et de créer quelque chose de très aéré, de très ouvert, mais peut-être oui un peu déstabilisant aussi, parce qu'on doit on doit parfois changer ses habitudes.
Mais moi je trouve ça fascinant et formidable d'être déstabilisé dans votre album, parce que là je vois par exemple la page 41 où on a le stagiaire sociologue qui est aussi très important dans l'histoire, qui déambule à la fois dans la page et dans les salles. Donc il y a des statues, on a les statues qui sortent de, c'est pas des cases, mais qui sortent d'un endroit, qui rentrent dans un autre, et vous avez réussi à recréer le fait que la sculpture soit aussi un art de l'espace, et que même si on est sur une planche en 2D, on a l'impression à chaque fois de tourner autour.
Ah, mais ça fait plaisir. Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu frustrant de ne pas pouvoir tourner autour. Donc, on le fait en plusieurs plans pour le coup, hein, mais ça c'est quelque chose. Moi, j'adore les huis clos au cinéma aussi et dans la BD aussi. Je suis très très attirée par ça, et j'ai le grand incident n'est pas un huis clos complet, parce que j'ai trois scènes qui jouent une à la plage au Portugal et deux dans un café, mais autrement toute l'intrigue, toute l'histoire se déroule au Louvre. Et je trouve que le huis clos nous oblige quelque part de beaucoup déplacer la caméra, qui est nos yeux, en fait, mais ou le point de vue. Et je trouve que ça rend l'ensemble très vivant, de ne pas toujours utiliser les mêmes plans, mais de beaucoup, enfin parfois de vraiment se mettre au-dessus ou en dessous pour jouer la grandeur ou la petitesse, par exemple, de cette petite Teresa qui est un personnage très important de l'histoire. Elle est toute petite, donc parfois quand elle parle et ses interlocuteurs se trouvent vraiment au-dessus d'elle, on la voit dans une perspective d'oiseau toute petite dans la planche.
Il y a aussi une planche qui raconte bien ça. C'est pas Teresa, mais c'est le frère et la sœur qui dirigent le Louvre. C'est la page 67. Moi, c'est une page que j'aimais énormément, où au début, le frère et la sœur s'engueulent, et finalement, à la fin, ils se retrouvent chacun de chaque côté de la grande case, on va dire ça comme ça, avec un grand et un petit. Et vos personnages sont dessinés de façon très sinueuse. Bon, ça, c'est votre style. Et ça aussi, ça rajoute beaucoup au côté vivant de l'album. On n'est jamais figé comme une sculpture. On est toujours en mouvement.
Mais ça, c'était... j'ai essayé de dessiner ces personnages-là, les personnages de l'histoire, d'une autre façon que les sculptures, par exemple, pour qu'on voit vraiment une différence. Pour les sculptures, j'ai essayé d'être plus réaliste. Avec des touches d'aquarelle, j'essaye aussi de rendre plus plastique, pour montrer le volume aussi des sculptures. Pour les personnages, en revanche, j'ai voulu un dessin plus caricatural, parce que comme c'est une fable burlesque, en plus, il fallait que déjà le dessin traduise le côté humoristique de l'angle. Ces personnages-là sont dessinés de manière plus nerveuse, peut-être, avec la plume et avec le pinceau pour les gros plans. Mais j'ai essayé de ne pas... Voilà, j'ai pas mis de l'ombre sur sur les personnages ou des couleurs qui pourraient détourner l'attention des œuvres. Donc, la part belle, elle est toujours donnée aux œuvres, dans les couleurs, dans les ombrages, etc. Et les personnages sont là pour raconter l'histoire, pour qu'on rigole, pour donner le côté vivant des personnages.
Oui, ça, je voulais parler des couleurs parce que c'est un album quand même majoritairement en noir et blanc, mais il y a tout un jeu qui conduit l'histoire d'ailleurs, un jeu avec les couleurs, notamment tous les décors sont en couleurs.
Alors, j'ai voulu travailler avec un dessin très épuré pour justement mettre en valeur les œuvres du Louvre et rendre hommage à ces œuvres. Et c'est pour ça que l'histoire est dessinée en noir et rouge, avec une encre rouge pour les scènes de jour, et en noir et une encre bleue pour les scènes qui se passent le soir et la nuit.
Pour finir, parce que avec le temps file, je voulais aussi dire aux auditeurs que toutes les œuvres sont redessinées, parce qu'on aurait pu se dire que vous auriez pu mettre des photos, mais bon, c'est pas évidemment le style de l'album, mais toutes les œuvres sont redessinées, et le fait qu'elles soient redessinées, c'est aussi une façon pour le lecteur ou pour les gens qui les ont déjà vues, de les redécouvrir, parce qu'il y a des cadrages, des façons de voir qu'on n'a jamais vu, qui sont les vôtres, mais qui sont une vraie vision nouvelle pour toutes ces œuvres. Et aussi le fait de voir les peintures sans les femmes nues, j'ai trouvé ça passionnant, parce qu'on se dit, je ne les avais jamais vues comme ça. Et le fait de pas les voir, ben finalement, on les voit encore plus, ces femmes nues.
Oui, c'est dingue comme elles prennent de la place. C'est là aussi, en les enlevant, c'était d'ailleurs un exercice assez amusant à faire, d'imaginer les décors qui se trouvent derrière ces femmes nues quand on les rend invisibles. Et on se rend vraiment compte que ça manquerait quand même vachement dans la planche si elle n'était plus là, ou dans les toiles et sur les socles vides. Je pense que cette image-là était assez forte pour montrer que elles ont une vraie place et elles ont une vraie importance.
Zelba, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi. On pourrait encore parler des heures et des heures de votre album, tellement il est merveilleux. Donc je rappelle que c'est Le Grand Incident. Vous êtes au scénario et au dessin. C'est publié par les éditions Futuropolis et c'est au prix très raisonnable de 23,50 €.
Et c'est co-édité par Le Louvre.
C'est co-édité par Le Louvre, exact. Je le vois et j'ai oublié de le dire. Voilà. Donc 23,50 €, c'est un album qu'il faut se procurer le plus rapidement possible, à la fois pour réfléchir et surtout pour passer un moment absolument délicieux avec votre travail.
Voilà, on ne peut pas le louper en librairie parce que la couverture, elle est rouge fluo.
Oui, je veux dire que les libraires le défendent beaucoup et même vos collègues dessinateurs, j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps au hasard, c'est son pseudonyme, oui. Et il me disait que quand on lui demande de conseiller un album paru en 2023, il cite toujours Le Grand Incident. Donc voilà, c'est un album qui a marqué.
C'est merveilleux. Je l'ai rencontré à Blois, à Bédi Boom, et je l'ai remercié de vive voix, parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être reconnu par ses pairs.
Oui, puis c'est aussi un dessinateur qui manie l'humour et qui aussi fait réfléchir. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui font qu'il faut lire cet album, et je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup, à bientôt.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.